OK. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Excellent. En 2005, nous sommes allés au Mexique et nous avons visité le site de Chichen Itza, qui est une ancienne ville construite par le peuple Maya dans la péninsule du Yucatan, environ 600 ans après Jésus-Christ, et qui, selon les estimés des savants, devait compter plus de 50 000 habitants, cette ville-là. On y retrouve des vestiges de grandes villas, d'un observatoire astronomique, de marchés, un stade sportif et de magnifiques temples en forme de pyramide. À ce moment-là, nous avions encore la permission de monter sur les pyramides et de pénétrer à l'intérieur, où, semble-t-il, on pratiquait des sacrifices humains. Qu'est devenue cette ville? Qu'est-ce qui a provoqué la disparition de toute une civilisation? Les Mayas qui n'existent plus même avant l'arrivée des Espagnols. Les théories abondent, mais personne ne le sait véritablement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traces écrites. L'archéologie et l'étude des civilisations anciennes, réalisées à partir de vestiges matériels d'une activité exercée par les êtres humains ou à partir d'éléments de leur contexte. Les informations qui en découlent de l'étude d'un site archéologique représentent tous des inférences qui ne sont pas forcément justes et qui exigent une corroboration de la part d'autres disciplines telles que la chimie, la géologie, la physique et notamment l'histoire. Imaginez des jeunes jouant aux archéologues de fortune qui, ayant découvert un site archéologique, tenteraient d'analyser les ruines sans pour autant avoir la première notion sur l'histoire derrière ces ruines. Le Dr. Paul Tripp dit que dès notre enfance, nous les êtres humains, et pendant toute notre vie, nous fouillons constamment dans le monticule, dans la butte de nos expériences antérieures, afin de procéder à une interprétation de ces expériences-là et d'en tirer des conclusions sur la personne de Dieu. À partir de nos fouilles archéologiques de fortune, sans le bénéfice des écrits pour nous éclairer. Comme des archéologues, nous tentons de faire du sens de nos expériences, et souvent, très jeunes, nous interprétons nos expériences avec des connaissances très limitées, et nous tirons tous des conclusions sur la nature de Dieu et sur nous-mêmes. Et est-ce que ces conclusions, nous pouvons nous attendre à ce qu'elles soient justes ou un peu à l'image de l'archéologie, ce sont des inférences que nous avons extraites et qui s'arrimeraient peut-être à un faible pourcentage à la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. J'aimerais vous dire, chers amis, que nous sommes tous, à quelque part, des archéologues de fortune. Quand il vient à notre vie, à nos expériences antérieures, et nous avons tous des notions faussées, souvent cachées, de qui est Dieu, et on appelle ça la théologie fonctionnelle. C'est ces croyances, ces notions-là qui dirigent nos réactions, nos décisions, nos pensées, notre perspective sur la vie. Tout ça est basé consciemment ou inconsciemment sur notre interprétation de nos expériences antérieures. Et n'allez pas penser que le passé, c'est le passé, car le passé influence le présent. Tout comme les édifices du présent sont souvent construits sur des ruines anciennes. Je me rappelle, je crois que c'est en 2014, on était à Rome, Lorraine et moi, puis on se promenait comme ça à travers la ville. Puis on arrive sur une place qui s'appelle la place Navone. Et puis Lorraine est rentrée dans une boutique. Fait que moi, j'ai fouillé sur Internet. Pourquoi ça s'appelle la place Navone? Et sur Internet, il disait, en fait, Navone, c'est une corruption de Inagone. Inagone. Pourquoi Inagone? Parce que c'était l'ancien site d'un colisée, où il y avait eu les jeux là, avec les gladiateurs et tout ça, hein, qui luttaient contre les bêtes féroces qui luttaient un contre l'autre, en agonisant jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que ça c'est devenu le nom de la place Inagone, qui, avec le temps, est devenue corrompue, puis c'est la place Navone. J'étais là, hein? Ouais, voyons donc. Puis là, il disait, si vous regardez dans la place, vous allez vous apercevoir que la place, elle a une forme ovale. J'ai regardé ça, j'ai dit, ben oui, regarde bien ça. La place, elle a une forme ovale. Et en continuant de lire, là, j'étais là, hey, Lorraine, faut que tu saches ça. Là, il disait, si vous vous rendez dans telle rue, et vous descendez un escalier, il y a un musée, et vous allez visiter les ruines de ce colisée-là, souterraine. J'ai dit, ben voyons donc. J'ai dit, vite, Lorraine, viens, on s'en va. Fait que, laisse faire la boutique, là. Puis, on fait le foyer de colisée, on descend, puis, wow, il y avait des ruines souterraines d'un vrai colisée, là. Les remparts, tout ça, les arches, puis tout ça. Puis, il y avait toute une exposition sur les costumes des gladiateurs et tout ça. Je capotais, là. Tout ça, c'était caché à l'œil. Mais la forme de la place avait la forme d'un colisée. Et le passé fait présent de votre présent. J'ai mal dit ça, là. Ça a mal sorti. Votre passé fait partie de votre présent, influence votre présent. Comme la place était construite, elle avait cette forme-là parce qu'elle était construite par-dessus les ruines. Et on interprète les événements de notre vie passée, de nos expériences, pour tirer des conclusions sur Dieu et sur nous-mêmes. Mais si on avait des écrits pour nous éclairer, si on possédait la vérité sur ce qui était écrit sur Dieu. Les archéologues en Égypte, eux, sont un peu gras durs parce que les Égyptiens ont laissé beaucoup d'écrits gravés sur leur murailles, sur leurs colonnes et tout ça. Et donc, ils peuvent utiliser ces informations-là pour aider à interpréter les fouilles qu'ils font. Si nous, on avait des écrits, eh bien, oui, la bonne nouvelle, c'est que nous avons des écrits. Et ce que voilà la phrase sommaire de mon message ce matin. J'ai décidé de vous donner le punch tout de suite en partant. Le punch, c'est ça. Jésus est l'expression en forme humaine de Dieu qui nous révèle la vérité sur Dieu. Nous devons choisir de nous détourner de l'archéologie de nos vies et nous tourner vers Jésus pour avoir la vérité sur Dieu et sur nous-mêmes. Je vous invite donc à faire le move d'un archéologue vers un théologien. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Jean chapitre 1, nous avons passé plusieurs semaines, et ça fait déjà plusieurs semaines depuis qu'on a regardé ce passage, mais c'est tellement important, c'est tellement un passage qui est rempli de vérité pour nous. Jean 1, au commencement était celui, et je lis dans la version du sommaire, qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci est la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement, « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Prions. Oui, Père éternel, souverain créateur du ciel et de la terre, nous voulons nous courber devant toi ce matin, Père, et implorer ta grâce. Fais luire sur nous ta face et accorde-nous ta faveur. Merci pour ce temps précieux qu'on peut avoir en tant que famille à écouter ta parole. Seigneur Jésus, parle à nos cœurs. On veut repousser toute autre voix que la tienne, Seigneur. Sois une muraille de feu autour de nous pour nous protéger de toute influence extérieure et que ton esprit parle à travers ton serviteur pour la gloire de Jésus. Amen. Voici ce qu'on a vu à date dans notre étude sur Jean 1. On a vu Jésus, la parole, il est éternel, il est divin, il est créateur, l'unique, le seul, il est vivant, il est clair, il est vainqueur des ténèbres, il est vivifiant, porteur de vie. Et ce matin, on va poursuivre avec incarné, on avait déjà commencé cet aspect-là. Jésus, c'est la parole ou le verbe incarné. Hein. Vous vous rappelez que le mot « logos », on n'a pas vraiment d'équivalent dans la langue française ou anglaise. C'est l'idée d'une pensée qui est exprimée, mais c'est une pensée qui est exprimée, qui est puissant, qui agit. Et donc, une parole qui agit dans notre langue à nous, ben, c'est un verbe. Hein? Le mot verbe, ça peut-être rejoindre un petit peu plus. Jésus, le verbe est incarné au verset 14. La parole est devenue chair. Cette parole qui existait déjà dans l'éternité, qui était avec Dieu, qui était Dieu, par qui toutes choses ont été créées, on a tout examiné ça, eh bien, elle est devenue chair. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait plusieurs formes de communication dans notre monde. On a la forme verbale, orale, je parle, mon cerveau envoie des messages électroniques à mes neurones, fait bouger ma langue, fait bouger mes babines, fait vibrer mes cordes vocales, et ça fait des petites ondes choc dans l'air. Et ces ondes choc-là ne sont pas ma pensée, mais transmettent ma pensée, n'est-ce pas? Il y a la forme écrite, mon cerveau va dire à ma main d'écrire ou à mes doigts de taper, et là, ça va être transmis dans l'ordinateur, ça va sortir sur l'encre. L'encre imprime des formes sur une page. Ces formes-là ne sont pas ma pensée, mais elles transmettent ma pensée. Et là, ce qui était d'extraordinaire et unique dans le cas de Jésus-Christ, c'est qu'on a une forme de communication qui est humaine. C'est une personne qui communique la pensée de Dieu. En chair et en os. Donc, c'est pas verbal ni écrit, c'est en chair. Dieu, sa pensée, est devenue chair. C'est la forme la plus complète, la plus extraordinaire. Des fois, on dit, ah, cette personne-là, c'est le mal incarné. Hein? Mettons Hitler, par exemple. C'est le mal incarné. Mais là, on a la pensée de Dieu incarnée. Pensez-y, c'est incroyable. L'expression la plus complète de la personne de Dieu, c'est une personne, c'est un homme. On voit dans Hébreux 1, il y a un passage qui a beaucoup, beaucoup de parallèles avec notre passage ce matin. Il est écrit à bien des reprises, bien de manières, Dieu a parlé autrefois, voyez-vous, à nos ancêtres par les prophètes. Il a pris beaucoup de formes de communication, Dieu, par le passé. Mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Il nous a donné un être humain pour exprimer sa pensée. C'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Tu ne peux pas communiquer la pensée de Dieu mieux que dans la personne de Christ. Christ, c'est Dieu sur deux pattes. C'est incroyable. Et si Jésus est l'expression la plus parfaite de Dieu, ce Verbe qui exprime la pensée et la personne de Dieu, qu'est-ce qu'il nous communique? Ben, Jean nous dit que Jésus a dit en passant, celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans notre passage à nous, personne n'a jamais vu le Père. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Donc, Jésus, c'est le Verbe incarné, la parole a pris chair. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Et nous avons tous contemplé sa gloire. Le Verbe incarné est glorieux. Nous avons contemplé sa gloire. C'est quoi la gloire? Bien, on l'a vu dans Hébreux 1, c'est le rayonnement de la beauté, de la perfection de Dieu. C'est ça la gloire. C'est ça qui est glorieux. Ça reluit, ça met en évidence les qualités extraordinaires de Dieu. Qui fait ça? Jésus. Et Jean dit, nous avons contemplé. C'est le fait de rester devant, à observer, à admirer, à être épris de sa splendeur. Jean dit, on était devant Jésus et c'est comme si on était devant un tableau magnifique ou un coucher de soleil magnifique ou un objet de valeur extrêmement belle, on s'est arrêté pour le contempler, pour l'observer. On a contemplé sa gloire. Et qu'est-ce qui suscitait cette admiration-là, cette contemplation fascinée du Verbe incarné? Bien, il le dit, plein de grâce et de vérité. Vous savez ça? OK, j'invente rien. C'est bon, vérifiez, hein? La parole fut faite chair et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Donc, Jean dit, on était ébahis devant la gloire de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il était plein de grâce et de vérité. Donc, on va examiner, on va essayer de déballer ces deux choses-là. Pleine de grâce, plénitude de grâce. La grâce incarnée sur deux pattes. Le terme traduit le mot grec charis, qui signifie faveur. Ça fait référence à un acte, une faveur ou un cadeau, ou ça peut avoir un rapport à une attitude favorable, hein? Si on l'avait vu déjà. Alors, on dit que Jésus était rempli de grâce. Ça veut dire quoi? C'est une attitude favorable. C'est ça que ça veut dire. Jésus, qui nous révèle le cœur de Dieu, comment est-ce qu'il était dans sa personne? Il avait une attitude toujours favorable envers les gens qu'il rencontrait. Favorable. Rempli de grâce. Alors, on nous dit que Jésus était rempli de grâce. ce qui fait référence à son attitude, sa disposition générale envers les gens remplie de grâce. Question, est-ce que quand vous pensez à Dieu, vous pensez que Dieu est rempli de grâce à votre égard? Est-ce qu'il a une attitude favorable, une disposition généralement favorable à ton égard? Puis, la question, c'est facile à répondre oui parce qu'on sait que la réponse est oui, là. mais souvent, c'est lorsqu'on arrive dans telle situation particulière ou pour d'autres personnes, telle autre situation. Peut-être toi, c'est quand tu arrives dans une situation où il y a plein de choses qui arrivent, que ça te dépasse puis tu deviens anxieux. Puis est-ce que dans ce moment-là, Dieu est favorable? C'est là que la théologie fonctionnelle, notre théologie, nos croyances qu'on a accumulées dans notre cœur parce qu'on a fouillé dans notre but d'expérience antérieure, puis on a essayé de faire du sens de nos expériences antérieures, puis ça, c'est des vérités qui viennent habiter dans notre cœur. Dans telle situation, je ne crois pas vraiment au fond de mon cœur que Dieu a une attitude favorable. Je le sais avec ma tête. Ça, c'est ma théologie, intellectuelle, théorique. Mais on a tous et chacun, frères et sœurs, une théologie fonctionnelle qui va se manifester, peut-être pas dans toute situation, mais arrimons là les circonstances pour que on va mettre Robert là, dans le pétrin. Est-ce que Robert, la façon qu'il va réagir ou penser ou ses attitudes vont révéler qu'il croit vraiment à ça, là, que Dieu a une attitude favorable en tout temps vers lui? Mais moi, je peux vous dire que j'en prends Robert, mais pour ma part, c'est pas vrai. Mais je veux que ça devienne vrai de plus en plus. Amen? Amen. OK. Alors, je n'ai pas besoin de fouiller dans le passé de mes expériences antérieures. Puis essayer. En passant, moi, j'aime beaucoup l'archéologie. Je trouve ça, quand je passe sur TV, là, je vois un épisode. C'est pas pour dénigrer l'archéologie. Je trouve ça fascinant. Mais c'est comme un puzzle. Puis c'est ça que je trouve fascinant. Il essaie de mettre les morceaux du puzzle ensemble pour comprendre. Mais c'est ça qu'on fait avec nos vies. Mais là, on n'est pas obligé de faire ça. Parce qu'on a sur patte l'expression de Dieu. Et l'expression de Dieu, c'est qu'il a toujours une attitude favorable, remplie de grâce. Comment ça se manifestait, ça, le fait que Jésus était plein de grâce? Bien, ça, c'est trop tôt. Eh bien, on voit que Jésus était rempli de passion et de compassion envers tous. J'ai dit passion? Non. Il était rempli de patience et de compassion envers tous. Jésus était rempli de grâce envers les gens. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie, dit Dieu dans Ésaïe 42:1. Je lui ai donné mon esprit, il établira la justice pour les nations, mais il ne criera pas. Il n'élèvera pas sa voix. Il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Grâce, patience, compassion. Jésus était rempli de cette grâce-là. Il n'abaissait pas les gens. Au contraire, il venait en aide aux découragés, aux démunis, à ceux qui avaient la tête penchée comme un roseau plié, cassé par les vents de l'adversité, aux multipoqués de la vie. Et on l'est tous, frères et sœurs. On l'est tous poqués. Savez-vous comment je peux savoir si j'ai réellement saisi cette attitude de grâce envers moi de Jésus? C'est par le fait que je vais être gracieux envers toi. c'est par le fait que je vais être favorable, que je vais être patient, que je vais être rempli de compassion. C'est comme ça. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas donner ce qu'on croit intellectuellement, mais qu'on n'a pas réellement vécu. OK? C'est clair? C'est triste, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Ce matin, si tu te sens comme un échec, si tu es découragé de la vie ou découragé de toi-même, si tu as la tête baissée comme un roseau brisé par le vent et la pluie des adversités, Jésus a compassion de toi. Jésus a une attitude favorable. Si la flamme de ta foi est presque éteinte, tu te dis que tu n'as plus le courage de continuer, eh bien, sache que Jésus, le Verbe incarné, a compassion de toi. Il est patient, aimant. Il ne veut pas t'écraser. Il ne veut pas te critiquer. Il veut relever la tête. Relever ta tête et te redonner force et honneur. Son cœur est grand ouvert pour toi. Mais suite à tes fouilles dans la butte de ta vie intérieure, tu es venu à la conclusion que Dieu est lointain. Au cours de certaines circonstances que Dieu t'a déçu. L'interprétation que tu as faite de ces circonstances-là, c'est que Dieu n'était pas intéressé à toi. Il t'a laissé tomber. Peut-être qu'au fin fond de ton cœur, tu crois qu'il t'a abandonné. Mais ce matin, on a Jésus qui te présente la vérité sur Dieu. Il a une disposition favorable à ton égard. Oui, à toi, à toi. Souvent, on pense que c'est vrai pour les autres, hein, mais ce n'est pas vrai pour moi. On fait tout ça. Jésus a une attitude favorable pour ma sœur. Mais moi, là, pour moi, il m'a oublié. Hein? Qui a déjà dit ça dans son cœur? Moi, je pense que Dieu m'a oublié. Moi, j'ai déjà dit ça. Est-ce que je crois ça avec ma tête? Non. Mais dans mon cœur, c'est « Colin, je pense que Dieu, tu m'as oublié, non? » C'est quoi le contraire de la grâce, selon vous? Exigeant? Pardon, mépris? Intransigeant. Pardon? Le mérite, c'est basé une relation sur le mérite. Si t'es fin, si tu fais ce que je dis, ben je vais être favorable. La semaine dernière, on était dans la voiture puis on a écouté une balado. Une? On n'est pas sûr, hein? Un podcast? Un podcast de Paul Tripp. Docteur Paul Tripp, c'est un merveilleux auteur, docteur, pasteur aux États-Unis. Puis, il passait en entrevue une dame qui s'appelait Vanitha Reisner. Cette dame-là, dans son enfance, elle a contracté le polio, le virus du polio. Tu sais, qui nous rend handicapés beaucoup. Là, souvent, ces gens-là n'ont même pas la capacité de marcher et tout ça. Puis, elle a passé pendant 9 ans de son enfance, 9 ans à rentrer, sortir de l'hôpital à Montréal, l'hôpital des Shriners à Montréal. Elle a subi au-dessus de 20 opérations. Elle a appris à marcher à l'âge de 7 ans. Elle a passé plus que 8 mois dans un plâtre, tu sais, comme un genre de corset, là, un plâtre, là, full corps. à l'hôpital. Et lorsqu'elle est sortie de l'hôpital cette fois-là, elle était très contente parce qu'enfin, elle avait appris à marcher. Puis un jour, elle voulait faire la surprise à sa mère. Elle voulait arriver plus tôt, puis en marchant chez elle. Mais cette journée-là, il y a des petits fins finons qui l'ont pris en grippe, qui ont lancé des pierres, qui ont crié des noms à elle, puis qui l'ont poussée à terre. Elle en est arrivée à la conclusion que Dieu la haïssait ou qu'il n'existait probablement pas. Voyez-vous? Est-ce qu'on peut la blâmer? Est-ce qu'on aurait tiré une autre conclusion? Elle a fait l'archéologie là, de ses expériences, puis elle a dit, comment j'interprète ça? Comment je mets ça ensemble? Dieu dit qu'il est bon, mais là, je vis ça. Là. Comment Dieu peut être bon? Fait que soit Dieu est bon, puis il me déteste, fait qu'il doit avoir quelque chose de pas correct avec moi, ou Dieu n'existe pas. Ou Dieu est sans force. Tout ça, en même temps qu'elle assistait à l'église de ses parents, qu'elle donnait toutes les bonnes réponses à l'école du dimanche, et que ses parents la croyaient vraiment chrétienne, elle s'est même fait baptiser. Mais dans le fin fond de son cœur, là, l'interprétation de ses expériences, c'était que Dieu ne m'aime pas, ou Dieu n'existe pas, ou Dieu n'est pas bon. Puis est venue une amie qui n'arrêtait pas de lui parler de sa rencontre avec Jésus et qui lui disait, « Dieu est vivant! Dieu est vraiment là! » Et finalement, elle a accepté de prendre la Bible qu'elle avait reçue à l'école du dimanche, qui était encore entourée de son cellophane, de déchirer le cellophane et dire, « Dieu, si tu existes, montre-moi-la. » Et elle a ouvert la Bible, elle est tombée sur le récit de Jean 9, où ce que Jésus croise l'homme né aveugle avec ses disciples, et ses disciples, des théologiens vraiment là, extraordinaires, disent à Jésus, hein, « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Comment un homme peut pécher dans le ventre de sa mère? C'est pas pour ça, là, je les appelle des théologiens extraordinaires. Jésus a dit non. Ce n'est ni que cet homme-là a péché, ni que ses parents ont péché, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Elle a compris que Dieu lui répondait. Parce qu'elle disait, pourquoi je vis tout ça? Mais Jésus lui disait, c'est pas le pourquoi, c'est afin que. C'est pas que. C'est pas que, qu'est-ce qui a causé ça? C'est afin que je sois glorifié dans ta vie. Elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Elle savait que Dieu était vivant. Elle voulait que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Comme on a vu la semaine dernière avec notre frère Robert, Dieu nous invite non pas à refouler ou à nier notre passé blessant, mais à y faire face, à vivre les émotions qui en découlent pour pouvoir ensuite aller vers Jésus, lui exprimer notre tristesse, notre colère, notre honte, notre anxiété, et de recevoir sa consolation, de recevoir son amour, de recevoir sa grâce. Et lorsqu'on fait ça, les mensonges qui ont habité nos cœurs suite à notre interprétation de nos expériences peuvent être remplacés par la vérité de Dieu. Comment est-ce que la grâce s'est manifestée à travers Jésus aussi? On a vu que c'était par une attitude de compassion, de patience avec les gens. Bien, Jésus s'est dépouillé pour nous enrichir. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Jésus, ne recherchait pas son avantage, mais celui des autres, et même à ses dépens. Pressé de tous côtés, il ne réagissait jamais avec impatience ou irritation, mais son attitude favorable demeurait constante. Le contraire, c'est d'être centré sur soi, sur son avantage, même aux dépens des autres, ou encore d'être simplement indifférent aux autres. Mais Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien. Ce matin, si tu te sens pauvre, démuni, pas important, négligé, son cœur est rempli du désir pour ton bien. Pour ton bien. Jésus désire ton bien. Et c'est comme ça que manifeste la grâce, l'attitude favorable. Il est patient, compatissant, et il veut ton bien. Une partie du problème, soit dans le passé ou le présent, c'est que trop souvent, je veux décider qu'est-ce qui est mon bien à sa place. Hein? Là, je décide, Seigneur, moi, je veux ça, et il me semble que ça, c'est juste normal que j'ai ça, puis tu es peut-être un bon Dieu, bien, donne-moi ce que je veux. Comme Étienne disait souvent, Dieu, sois un bon Dieu et donne-moi ce que je veux. Alors, le problème, c'est souvent, c'est que je veux décider qu'est-ce qui est bien pour moi. Mais il faut lâcher prise, puis laisser Dieu décider qu'est-ce qui est bien pour moi. Mais sachez que Dieu veut ce qui est bien pour moi. Dieu veut ce qui est bien pour toi. Mais c'est souvent là que je me fourvoie, je désire telle et telle chose, et là, je fais dépendre la grâce et la bonté de Dieu, s'il me l'accorde ou non. Cette même femme-là, Venita Reisner, ses problèmes, ils n'ont pas arrêté là. Après qu'elle a connu le Seigneur, elle a eu plein d'autres problèmes dans sa vie. À un moment donné, elle a réalisé que le plus grand bien que Dieu a pour elle, c'est sa présence. Sa présence glorieuse, c'est ça le plus grand bien. Elle a vécu plusieurs fausses couches. Elle a eu un enfant qui est né avec un problème cardiaque, qui est mort à l'âge de 2 mois. Elle a vécu un divorce, son mari l'a laissé pour une autre femme. Plein de choses. Et elle a réalisé que le plus grand bien, c'est la présence glorieuse de Dieu dans sa vie. Le ciel, c'est quoi? C'est la présence glorieuse de Dieu. Le ciel sur terre, c'est quoi? C'est la présence glorieuse de Dieu dans ma vie. Jean dit, nous avons contemplé sa présence glorieuse, remplie de grâce et de vérité. De quelle autre façon la grâce se manifestait dans la vie de Jésus? On a vu ses patience, compassion envers les gens, désir pour leur bien, c'est même appauvri pour enrichir les autres. Et troisièmement, par sa disposition à pardonner même les pires offenses. Même le mot « grâce » est souvent synonyme avec « pardon », n'est-ce pas? On va gracier quelqu'un. Donc, le fait de pardonner quelqu'un, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau qu'on donne. Est-ce qu'elle est méritée? Non, elle n'est pas méritée. Ah, il ne mérite pas que je le pardonne. Oui, bien, c'est ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas un mérite. C'est quelque chose que tu accordes. Si la personne mérite, ce n'est plus une grâce. Le contraire, c'est le jugement, la condamnation. Jésus était disposé à pardonner, on l'a vu, hein, avec Pierre qui le reniait dans son moment le plus critique. Pierre le reniait 3 fois. Quelle était l'attitude de Jésus envers Pierre après? Exigeant, dur, Pierre, espèce de connard. Non. Il était déjà disposé à le pardonner. Judas, c'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Hein, on a vu que déjà là, Jésus n'essaie pas d'éteindre l'illuminion, mais souffler dessus pour rallumer sa conscience et l'amener à la repentance. Mais pas une attitude de jugement. Judas, tu vas y goûter, mon gars. Si tu fais ça, attention à toi, là. Tu ne touches pas au Fils de Dieu comme ça, là. Est-ce qu'on a une attitude de grâce comme Jésus, disposée à pardonner? Mais est-ce que Dieu a cette attitude envers toi? Oui! Vous savez, dernièrement, Lorraine et moi, on était avec une personne qui priait constamment, « Dieu, pardonne-moi pour telle affaire. Oh, je te demande tellement de pardonner. » Là, je dis, « Time out. Tu demandes à Dieu de te pardonner, OK? » OK. Puis là, tu leur demandes encore qu'il te pardonne et tu leur demandes encore qu'il te pardonne. C'est parce que tu ne l'as pas reçu, son pardon, là. Est-ce que je suis convaincu sur la base des fouilles dans ma butte d'expérience antérieure que Dieu est disposé à me pardonner? Non. Non. Moi, je l'ai vécu ça aussi. Fais une gaffe. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Ah, Seigneur, le lendemain. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Une semaine plus tard. Ah, Colin, j'ai pas fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne crois pas foncièrement que Dieu est favorable, que Dieu a cette disposition-là de cœur à me pardonner. Mais on a sa nature sur deux pattes avec Jésus. Et Jésus, comment il était? Comment il était, Jésus? Enclin à pardonner. À pardonner facilement. À part ça. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de souffrir, le martyr, sur la croix, là. Père, pardonne-leur. Quoi? Quoi? Si, suite à l'interprétation que tu as faite de ta vie, tu vois Dieu comme quelqu'un qui te juge, qui accorde que difficilement son pardon, il va falloir que tu rampes, que tu manges la poussière, puis que tu te fais le misérable quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques années même, avant que Dieu, enfin, t'accorde son pardon. Bien, on dit non. Mais combien ici vivent cette expérience-là comme moi? Pardon, Seigneur, le lendemain, ah non, pardon, Seigneur, ah non, pardon, Seigneur. Combien? Oui, hein? Bon, bien, ça veut dire que notre théologie fonctionnelle ne s'arrime pas avec la théologie qui est exprimée dans la personne de Jésus-Christ. Jésus avait l'attitude du deuxième chance. Une attitude de grâce envers les pécheurs qui étaient fautifs à son égard. Donc, nous voyons que Jésus était rempli de cette attitude de grâce, de faveur, toujours favorable, qui le disposait à venir en aide aux démunis, aux découragés, à chercher l'avantage des autres et à pardonner, même à ceux qui le trahissaient. Mais la parole de Dieu était glorieuse parce qu'elle était remplie de vérité également, de vérité. Jésus, on a vu la dernière fois que la grâce, ce n'est pas la clémence, ce n'est pas l'amnistie, la grâce, ce n'est pas la mollesse. Toutes ces choses-là, là, sont des pseudo-grâces, escamotent la vérité. Hein? Escamotent la vérité. On va passer l'éponge sur la vérité. Non. Jésus, ce qui était frappant, c'est qu'il était rempli à la fois de grâce et de vérité. Judas, c'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Voyez-vous la grâce là-dedans? Mais voyez-vous aussi la vérité? Tu trahis le Fils de l'homme. Judas, avec un baiser, Judas, grâce et vérité. Et j'ai dit, on a contemplé sa gloire. Wow! Est-ce qu'on veut que Jésus brille à travers nous, frères et sœurs? Il faudrait qu'on soit remplis de grâce et de vérité, nous aussi. Là, là, les gens vont faire. Wow! Il y a quelque chose de différent, là. C'est quoi le rapport entre la grâce et la vérité? La vérité, c'est une grâce. Est-ce que vous aimez ça qu'on vous ment? Hein? Vous appelez là, telle ligne pour avoir du soutien technique pour telle affaire, puis là, on vous ment. Alors, vous savez que la personne vous ment. Là. Vous aimez ça? La vérité, c'est une grâce. C'est une faveur. Cacher la vérité, la modifier, l'amputer ou la déformer revient tous à des mensonges. Et le mensonge, c'est toujours destructeur. Le mensonge, c'est toujours destructeur. La vérité, elle, c'est une grâce qui amène la vie, même si elle est difficile, la vérité. Judas, avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme, là. Pas facile à dire, ça. Pas facile à recevoir, ça. Une vérité difficile, mais s'il l'avait reçue, qu'est-ce que ça leur a produit? La repentance et la vie. La vérité, ce n'est pas le contraire de la grâce. La vérité, c'est une grâce. Jésus, le Verbe incarné, était motivé par la grâce et l'amour lorsqu'il disait la vérité. Judas! Il était motivé par amour et grâce, tout en disant la vérité. Mais nous, souvent, là, hein, tu vas voir, je vais dire ces quatre vérités, là, maintenant, là. Ah, OK. Tu vas dire ces quatre vérités. Oui, oui, la vérité, il faut qu'il sache la vérité. OK. Ben, c'est bien la vérité. Mais c'est quoi ton attitude? As-tu une attitude d'amour et de grâce? Et savez-vous quoi? La vérité sans la grâce, ce n'est pas la vérité. Je le répète. La vérité sans la grâce, là, ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu est grâce et vérité. C'est ce qu'il est dans sa personne. Fait que si je représente un Dieu qui est juste vérité, pure et dure, là, ben j'escamote l'attitude favorable. Qui est la vérité sur qui est Dieu? Vous me suivez? Non seulement Jésus dit la vérité sur Dieu et sur nous, mais sa personne en elle-même est la vérité sur Dieu. La personne de Jésus, c'est la vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de l'homme qui est dans l'intimité du Père l'a révélé. Il a montrer la vérité sur qui est Dieu. Cette vérité confronte notre vérité, entre guillemets, à laquelle nous sommes arrivés, basée sur les fouilles, comme on le répète, dans la butte de nos expériences antérieures et suite à l'interprétation qu'on en fait. Donc, on a vu le Verbe incarné plein de grâce. C'est une attitude favorable. Comment cette attitude favorable se voyait dans la vie de Jésus, remplie de patience, de compassion envers tous, dépouillée pour nous enrichir, disposée à pardonner. Et nous avons tous, nous dit Jean au verset 16, été comblés des grâces du Verbe incarné. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et là, on parle de grâce en termes d'un cadeau, de faveur. Son attitude générale envers nous, c'est la grâce. C'est une attitude de faveur. Mais Jean dit en plus, il nous a comblés de grâce. Ça, c'est des cadeaux. Comprenez? C'est lui, nous dit Paul dans 2 Timothée, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. S'il le fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Avez-vous suivi la pensée de Paul ici? Je répète. Cette grâce, la grâce qui nous a sauvés, il nous l'a donnée depuis quand? Depuis le moment où est-ce que tu as cru en Jésus? Non. Il dit de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par le venu de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu étais encore pécheur, lorsque tu étais encore ennemi de Dieu, lorsque tu étais encore sans force, Dieu t'avait déjà accordé dans son cœur la grâce. Et cette grâce-là a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Donc ici, on a l'attitude de Dieu qui nous est favorable depuis toute l'éternité. Pense à ça. Demain matin, là, remercie le Seigneur. Ou ce soir, mais dis au Seigneur, merci Seigneur que depuis toute l'éternité, tu as une attitude de faveur envers moi. Dis-le. Cette vérité-là, il veut que cette vérité-là descende dans ton cœur, qu'elle remplace, qu'elle expulse les mensonges qui nous habitent. Dis-le à haute voix. Merci, Père Céleste, que tu as une attitude favorable envers moi depuis toute l'éternité et que ce maintenant, ça a été manifesté par la venue de Jésus-Christ qui a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Nous avons tous reçu de sa grâce, dit Jean, et grâce sur grâce. Une grâce après l'autre. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la nourriture. C'est lui qui nous donne la santé, peu importe si elle est totale ou partielle. C'est lui qui nous donne l'amitié de nos proches. C'est lui qui nous donne l'amour de notre famille, si on a une. C'est lui qui donne la jouissance de la nature dans les multiples aspects de sa beauté, etc., etc. Et comme si tout ça, ce n'était pas assez, il nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Et si ça, ce n'était pas assez, il nous donne son esprit. Et si ce n'était pas assez, il nous donne une espérance vivante d'être avec lui pour toujours dans le ciel. Grâce sur grâce. Tous ces gestes ou faveurs, ces grâces sont le fruit de son attitude de grâce et de faveur envers nous. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre ce matin, frères et sœurs, par la grâce de Dieu. C'est qu'il a une attitude favorable. Donc, nous allons passer au repas du Seigneur. Et je martèle ce point-là souvent. Vous le savez, vous êtes tanné, je sais, mais c'est pas grave, je suis tannant. La révélation de Dieu devrait nous conduire à quoi? À l'adoration. OK, Robert, tu réponds plus. La révélation. Si on reçoit la révélation de Dieu, mais ça ne nous conduit pas à l'adoration, ça va conduire à quoi? L'orgueil. La connaissance enfle. Non, au contraire, la révélation doit nous amener dans l'humilité devant Dieu, dans l'adoration. Et comme Jean dit, nous avons contemplé sa gloire et Jean était dans l'adoration. Mais l'adoration, c'est excellent, Mais si ça reste juste là, eh bien, ce n'est pas suffisant. Parce que après avoir adoré Dieu dans la révélation qu'il nous a montrée, Dieu s'attend à ce qu'on regarde, « OK, tu m'as révélé ça, ma vie, mon cœur est comme ça, j'ai quelque chose à confesser. J'ai sûrement quelque chose à dire à Dieu par rapport à ça. J'ai sûrement quelque chose à me repentir. J'ai cru, ne serait-ce que dire à Dieu, puis c'est pas le minimum, c'est déjà excellent. Et je pense que c'est ça que Dieu veut, de dire, j'ai cru un mensonge à ton égard. J'ai cru un mensonge à ton égard. Je le confesse et je veux me détourner. » Donc, la confession, mais la confession en elle-même, si elle ne conduit pas à l'engagement, demeure des vieux pieux. Je m'engage. Donc, ce matin, ces choses-là, c'est en rapport avec la révélation de Dieu qu'on a eue ce matin. Ça marche? Puis à chaque fois que vous prenez la parole de Dieu, vous demandez à Dieu, « Révèle-moi ta personne. Révèle-moi quelque chose de nouveau sur toi, sur moi. » Et là, cette révélation-là devrait te conduire, mon frère et ma sœur, à l'adorer, à l'aimer, à confesser et à t'engager. Amen. Donc, Jean, je t'invite à venir.